Sir, may we start?
Et maintenant, les ateliers radiophoniques de Canal B.
Bonjour, c'est Morgane. Bienvenue dans les ateliers radiophoniques de Canal B. Vous allez entendre aujourd'hui le premier épisode de l'émission d'Amani, Batoul, Farida, Radia, Maria, Natalia, Marilou, Zoya et El Sadig. Et elle arrive du Soudan, d'Afghanistan, d'Ossétie du Nord, d'Ukraine, du Tchad, du Maroc et d'Angola. Et elles apprennent le français à langue et communication. Pendant 3 mois, avec Anaïs Hiver et Laurie Soulabaye, nous les avons accompagnées pour ce projet radiophonique pour lequel elles ont choisi de parler des droits des femmes en France et dans leur pays d'origine. Elles ont aussi rencontré et interviewé Jessica et Amandine, membres du syndicat Front de Mer Rennes, et Maya Kerbelec de l'ASFAD, qui travaille à la Maison des Femmes Gisèle Halimi de Rennes.
Bonjour, nous sommes
Maria,
El Sadig,
Natalia,
Farida,
Batoul,
Marilou,
Zoya,
Radia,
Amani,
nous venons
de Soudan,
d'Afghanistan,
d'Ossétie,
d'Ukraine,
du Tchad,
d'Angola
et du Maroc.
Nous avons préparé pendant 3 mois une émission de radio avec Morgane, journaliste Canal B, sur le sujet du droit des femmes.
Nous avons choisi ce sujet car nous voulons informer sur la condition des femmes dans nos pays.
Cela nous a permis de connaître davantage la situation des femmes en France. Nous avons réfléchi sur le combat des femmes pour leurs droits en France et ailleurs.
Nous avons conscience qu'il faut défendre et protéger ces droits.
Une société où les hommes et les femmes ne sont pas égaux est une société malade.
Nous avons rencontré Maya Kerbel de l'ASPAD de la Maison Femme Gisèle Halimi.
Nous avons aussi rencontré Jessica et Amandine, syndicat Front de Mer.
Nous avons parlé de la liberté d'expression, des stéréotypes, de genre, de droit à l'éducation des filles, de droit à la santé, de droit à l'avortement.
Bonjour, je m'appelle Farida et je viens d'Afghanistan. Quand je suis arrivée en France, je pensais que les femmes à vivre le même droit que les hommes et qu'elles vivent sans grande difficulté. Aujourd'hui, je comprends que la réalité est plus complexe. Certaines femmes rencontrent encore des problèmes à cause de leur situation sociale, familiale ou économique. Mais la situation des femmes en Afghanistan est beaucoup plus difficile. Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les femmes ont perdu leurs droits et leur liberté. Les filles ne peuvent plus aller à l'école et beaucoup de femmes ne peuvent plus travailler ou participer à la vie de la société. Il est difficile d'être optimiste chaque jour. La femme et la fille afghane vivent des discriminations, des injustices et des violences. Leur avenir est en danger. Ce dernier jour, dans la province de Herat, à l'ouest du pays, deux femmes ont manifesté pour défendre leurs droits. Elles demandaient plus de liberté et le respect de leur dignité. Malheureusement, certaines ont été arrêtées et d'autres ont subi des violences. Beaucoup de femmes vivent dans la peur. Imagine une mère qui a perdu son mari. Elle sort de chez elle pour acheter du pain à ses enfants. Sa fille l'attend à la maison, mais elle ne revient jamais. Cette histoire est très triste, mais elle représente la souffrance de nombreuses familles afghanes. Les femmes pauvres, malades, âgées ou en situation de handicap vivent des conditions encore plus difficiles. En France, je vis aussi en autre réalité. Je rencontre des femmes qui sont mères, directrice responsable des associations ou engagée dans la vie publique. Cela m'a donné de l'espoir. Cela montre que les femmes peuvent participer activement au développement de la société grâce à leurs compétences et à leur travail. Je voudrais aussi remercie une bénévole qui est devenue mon amie. Elle s'appelle Marie Molek. Elle est toujours gentille, généreuse et prête à aider les autres. Elle travaille comme bénévole au Secours populaire et aux campagnes les femmes migrantes. Ainsi que les familles en difficulté, elle donne beaucoup de son temps pour aider les personnes qui en ont besoin. Pour moi, elle représente une très belle image de la société française. Même à la retraite, elle continue à aider les autres. Son engagement, sa solidarité et sa générosité sont une grande source d'inspiration pour moi. Aujourd'hui, je voudrais demander à chacun et chacune d'entre ou d'être à la voix des femmes afghanes. Elles ont besoin de soutien et de la solidarité du monde entier. Ensemble, nous pouvons montrer que nous ne les oublions pas.
Bonjour, je m'appelle Maria et je viens de Ossétie. Quand je suis arrivée en France en 2025, je pense que les femmes avaient plus de liberté que dans mon pays, Ossétie. J'ai été surprise à mon arrivée car je trouvais que les femmes travaillaient librement et que les femmes et les hommes étaient égaux. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Avant, les femmes restaient à la maison. Maintenant, en Ossétie, les femmes et les hommes ont les mêmes droits légaux. Mais les traditions familiales sont souvent plus fortes qu'en France. On attend souvent qu'elles s'occupent davantage des enfants et de la maison. Ici, le partage des tâches part plus équilibré, mais beaucoup de femmes font tout à la maison. Moi, ça ne me gêne pas, car j'adore faire le ménage. En France, la société est plus individualiste, alors qu'en Ossétie, la vie de la famille et des proches compte davantage. Moi, je rejoins ma famille ici et j'habite avec ma mère. Avoir ma famille près de moi est très important pour moi. Elle me soutient dans mes choix parce que nous sommes une famille. Ma mère m'appelle souvent mon fils, car enfant, je jouais aux voitures à monter dans les arbres comme mes frères. Je n'ai jamais joué à la poupée. Pour ma mère, il y a des jeux pour les filles et des jouets pour les garçons. En France, on a vu que dans les magasins, les jouets ne doivent pas être classés entre les filles et les garçons, entre le bleu et le rose. Il y a une règle qui interdit ça, mais dans la fille. Ça ne s'est passé pas comme ça. C'est le marketing.
Bonjour, je m'appelle Amani, je viens du Soudan. Avant de venir en France au Soudan, je ne m'occupais pas du tout des achats et du budget de la maison. Maintenant, je dois décider des achats et c'est compliqué pour moi. Au Soudan, on vivait avec la famille, les parents, les frères et les sœurs. Tout le monde s'occupait de l'éducation des enfants. Maintenant, je suis la seule responsable de l'éducation car mon mari travaille tous les jours. Quand je suis arrivée en France, je pensais que les femmes avaient tous les droits, qu'elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Au Soudan, les femmes ne peuvent pas le droit d'aller au café, de famille, d'être libres. On ne peut pas s'habiller comme vous. Les femmes travaillent comme les hommes, mais elles ne peuvent pas travailler dans tous les domaines. Les métiers sont très généreux. En France, j'ai beaucoup de responsabilités. Au Soudan, mon mari décidait de tout. Ici, je fais un rendez-vous, je vais chercher les enfants. Au Soudan, une femme peut sortir dans la rue avec des femmes ou uniquement les hommes de sa famille. Il doit être calme et discret. Je faisais attention. Dans mon quartier, car le voisin pouvait parler sur moi à ma famille. Je faisais attention au regard des autres, car sinon ma famille pouvait nous taper. Si je voulais sortir avec ma copine, on se donnait rendez-vous autour du quartier.
En France, je me sens en sécurité. Je peux sortir avec mes amis, parler fort. Et moi, j'aime parler fort. Dans mon pays, je ne pouvais pas parler fort.
Bonjour, je m'appelle Radia et je viens du Maroc. Quand je suis arrivée en France, j'ai pensé que la famille était plus unie ici en cas de séparation. Lorsqu'un couple divorce, il me semble que le père pense plus à ses enfants et assume son rôle de père. Dans mon pays, une femme divorcée fait tout, toute seule. Au Maroc, à mon époque, même si elle ne travaillait pas, la femme avait beaucoup de patience pour diriger la famille, s'occuper du foyer et de l'éducation des enfants. Au Maroc, les mentalités évoluent maintenant. Une loi importante a changé la vie des femmes, c'est la réforme du code de la famille appelée Moudawana en 2004. Cette réforme est considérée comme une grande avancée pour les droits des femmes dans le pays. Grâce à cette loi, plusieurs choses se sont améliorées. L'âge minimum du mariage, 18 ans pour les filles, avant c'était plus bas. La responsabilité de la famille partagée entre le mari et la femme. La femme peut maintenant demander le divorce. La polygamie est plus strictement contrôlée et les femmes peuvent obtenir la garde des enfants après un divorce. Avant cette réforme, les femmes avaient moins de droits dans le mariage et elles étaient souvent considérées comme dépendantes des hommes de leur famille. La réforme de Moudawana en 2004 rapproche l'égalité entre les femmes et les hommes. Ces changements me font réfléchir à ma propre expérience de femme et de mère. J'ai donné toute ma vie à mes enfants. Je me suis parfois oubliée. Avec le recul, j'aurais bien aimé m'occuper de mes enfants, sans m'oublier moi-même. Si c'était à refaire, je penserais davantage à mon propre équilibre. À mon avis, les femmes ne doivent pas être sous-estimées ni soumises à l'homme. Les femmes et les hommes sont égaux et ont les mêmes droits. En France, dans le passé, les femmes n'avaient pas les mêmes libertés que les hommes. Aujourd'hui, elles peuvent étudier, travailler et participer à la vie politique. Des femmes Gisèle Halimi, Simone Veil, Fatima Wassak, par exemple, ont su et savent se battre pour les droits des femmes en France. Dans le monde entier, il est important de respecter les femmes et de reconnaître leurs valeurs dans la société. Une famille est plus forte lorsque les responsabilités sont partagées et lorsque les femmes et les hommes se respectent mutuellement.
Bonjour, je m'appelle Batoul et je viens de Tchad.
Vous vous êtes intéressée au mouvement MeToo, qu'est-ce que c'est ?
J'ai découvert mon mouvement MeToo en France. Cet mouvement d'ampleur dans les pays occidentaux lutte contre l'agression faite aux femmes au Tchad. Il n'y a pas d'association pour les femmes.
Vous pouvez nous parler de Zohoura ? Que lui est-il arrivé ?
En 2016, une fille qui s'appelle Zohoura était kidnappée et violée pour la fils dont ou fonctionnels dans l'État. Ils ont partagé la vidéo sur Internet. Des étudiantes et des femmes sont sorties dans la rue pour défendre Zohoura et réclamer la justice.
Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Malgré, il n'y a rien passé au Tchad, parce que la voix des femmes ne compte pas.
Que peut faire une femme qui a des problèmes de violence conjugale au Tchad ?
Elle ne peut pas parler. Elle est très pauvre. Elle ne veut pas partager par la police. Elle ne coûte pas. En plus, une femme mariée ne peut pas trouver aide avec son parent car sa famille sont mariées. Après, il y a une différence. La capitale et la campagne où femmes sont beaucoup plus isolées.
pause musicale dans les ateliers radiophoniques de Canal B. On va écouter Mélissa Lavo, Cousaine. Un titre de Mélissa Lavo sur Canal B dans les ateliers radiophoniques. Retour avec les apprenants et apprenantes de langue et communication.
On commence ? Ouais ? Allez.
Bonjour, je m'appelle Farida et merci d'avoir accepté de nous rencontrer et de répondre à nos questions. Nous apprenons le français à l'association langue et communication et nous préparons une émission de radio avec Morgane sur le sujet des droits de femmes.
Qui a créé Front de Mer?
Alors, le Front de Mer, il a été créé à côté de Paris, à Bagnolet, par Fatima Ouassak et Gundo Diawara, qui avaient besoin de se rassembler pour pouvoir défendre les enfants, en fait, notamment par rapport à l'école, il y avait des problèmes à la cantine ou des choses comme ça, et du coup, toute seule, c'était difficile de défendre les enfants, donc elles se sont rassemblées pour parce que ensemble, on a plus de force, quoi. Donc voilà, ça a été créé en 2016 à Paris et ensuite il y a plusieurs antennes à Strasbourg et celle de Rennes a été créée en 2020, je crois.
Qui est Fatima Ouassak?
Alors Fatima Ouassak, c'est une personne super. Moi, j'écoute toujours avec beaucoup d'attention. C'est une femme politique, elle a fait des études de politique, donc elle est politologue et militante et écrivaine. Donc elle a écrit plusieurs livres vraiment dont celui qui est un peu la fondation, enfin il y en a deux qui sont vraiment les fondateurs du Front de Mer, c'est La puissance des mères. Donc c'est vraiment pour redonner de la place aux mères de famille, dire que c'est nous les premières garantes des droits de nos enfants, c'est nous qui nous en occupons le plus, donc c'est nous qui sommes là pour les défendre et c'est nous qui connaissons le mieux nos enfants, donc qui avons vraiment le droit de les défendre. Et le deuxième, c'est pour une écologie pirate. Et là, c'est l'idée d'une écologie populaire, c'est-à-dire que même dans les quartiers populaires, même avec peu d'argent, on veut que nos enfants et notre famille mangent bien. Voilà, donc on se bat pour pouvoir cultiver nous-mêmes des légumes dans des jardins partagés dans le quartier, etc. quoi.
Quelle est sa nationalité?
Alors, elle dit rifféenne, c'est-à-dire du Maroc, mais plus précisément de la région du Rif, elle y tient beaucoup.
Quelle est sa profession?
Politologue, du coup, et écrivaine.
Pourquoi un syndicat et pas une association ou un collectif?
Alors oui, on se dit comme, on se présente comme un syndicat. En réalité, on est une association. On n'est pas un vrai syndicat, mais on tient à dire ce mot-là quand même dans notre présentation, parce que pour nous, c'est important qu'il y ait cette notion de défendre les droits, donc surtout des enfants. Alors des mères et des parents aussi, pour qu'ils puissent ensuite défendre leurs enfants. Hein, tout est lié, mais voilà, c'est vraiment parce qu'il y a cette volonté de défendre les droits.
Est-ce que ça vous donne plus de pouvoir d'agir?
Oui, ça nous donne du pouvoir d'agir, effectivement, parce qu'on est ensemble et que, ce que je disais, ensemble, on est vraiment plus fort, en fait. Hein. Quand on a un rendez-vous à l'école, par exemple, avec un maître, une maîtresse qui nous fait un peu peur, ben on peut accompagner, par exemple, et ça nous donne de la force. Si on comprend, certains comprennent pas très bien le français, ben nous, on peut traduire, on peut être là et ça donne une assurance, en fait, pour ça et pour plein d'autres choses, mais...
Dans quelle ville de France et dans quel pays votre organisation est-elle présente?
On a une vingtaine un peu de partout. On est ici, évidemment, ici à Rennes. On a une à Paris, à Strasbourg, Bruxelles.
Je crois que Bagnolet et Paris, c'est deux différentes, mais ouais, je crois que c'est ça.
Est-ce que votre activité est locale ou est-ce que vous agissez aussi pour des familles à l'étranger?
Mais oui, en fait, le Front de Mer, c'est pas nous qui défendons les gens directement. C'est plutôt nous qui donnons de la force aux personnes pour qu'elles puissent se défendre elles-mêmes. On est bénévole et c'est un principe d'auto-organisation. Ça veut dire que c'est nous qui, enfin, on va aider à trouver les bons numéros, des bons avocats ou tout ça, mais c'est pas nous qui faisons. C'est vraiment, on se dit, allez, on se met ensemble, on va trouver une solution et on va surtout se donner de la force et du courage pour agir ensemble.
Qui a eu l'idée de créer le syndicat Front de Mer à Rennes?
Alors là, c'est deux personnes, Priscilla Zamor et Aurélie Massé. Et Lala. Donc je n'ai pas le nom de famille, désolée, qui sont les trois cofondatrices, deux habitantes du quartier de Maurepas et une habitante du Blône.
Et pourquoi?
C'est parti d'histoires de violences policières dans le quartier, en fait, sur des enfants et les parents qui ont eu besoin de trouver de la force pour se défendre face à ça.
Front de Mer a commencé à Rennes.
Front de Mer était créé en 2020 ici à Rennes.
Personnellement, qui vous a donné envie de rejoindre France de Mer?
Tout d'abord, moi, je rejoins Front de Mer parce que ils défendent aussi les droits des enfants handicapés. Et dans mon cas, j'ai un fils qui est autiste, donc. C'était une des premières droits. Après, j'ai trouvé des copines et voilà, on se soutient mutuellement et on fait des activités ensemble, reconnaître les quartiers, les habitants, etc. Voilà.
Alors moi, c'est quand je suis arrivée sur le quartier, en fait, donc il y a à peu près 4 ans, je suis à l'école du quartier, mes enfants sont à l'école du quartier et c'est au conseil d'école. Donc c'est le conseil d'école, ça a lieu 3 fois dans l'année et il y a tous les enseignants de l'école, les directeurs, directrices, tout ça, et quelques parents qui sont élus, délégués, représentants des parents d'élèves. Et donc je suis représentante des parents d'élèves et dans notre école, je remarquais que tous les gens qui étaient dans la salle étaient tous blancs. Et je me suis dit, ça ne représente pas du tout notre école parce qu'il y a énormément de nationalités dans notre école. Je crois qu'il y a à peu près 17 langues parlées, 17 langues maternelles, quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère. Et je trouvais ça pas normal que ce soit que des personnes blanches qui représentent et qui prennent des décisions pour des personnes qui n'avaient pas la possibilité d'être représentées et de pas, voilà. Donc, mon combat est parti de là et de me dire, il faut que j'emmène avec moi des copines et qu'elles viennent oser être déléguées, oser prendre la parole, prendre une place. Et On y travaille beaucoup avec, notamment, on fait les dragons de l'égalité, des ateliers pour aider les parents à prendre confiance en eux, à oser prendre la parole. Donc, il y a des ateliers sur les droits, très clairement, pour connaître ses droits par rapport au handicap aussi, par exemple, sous forme de théâtre ou quoi, oser s'exprimer, prendre la parole et tout. Voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver la force en nous d'oser s'affirmer et défendre chacun les droits de ses enfants, en fait. De pas attendre que ce soit toujours des personnes blanches qui décident pour nous. Je dis ça, je suis blanche, mais justement, je voudrais pas être la seule à décider pour mes amis, quoi. Voilà.
Comment vous vous organisez concrètement?
On se réunit tous les vendredis ensemble, le midi, on fait ça, c'est une réunion un peu spéciale parce qu'on fait le repas ensemble, etc. Donc c'est là où on se rencontre et on parle de tout ce qui va pas et tout ce qui va aussi. Et on a aussi notre café le mercredi matin au centre culturel de Longpré. Tout le mercredi matin, on se rejoint. Il y a les parents dans les quartiers qui peuvent venir rejoindre à nous, de discuter de ce qu'ils veulent, s'ils ont eu problème, si on peut les aider, donner des avis, etc. Voilà, donc on a aussi notre groupe WhatsApp. On parle de toute la nuit aussi, si on a une discussion, on se communique. Très fluentement avec tout groupe ou même personnellement si on a un petit souci. Voilà.
Tous les parents des élèves ne connaissent pas leur droit. Est-ce que vous êtes présente dans toutes les écoles de Rennes?
Alors, en fait, c'est assez difficile les rapports avec l'école. On est effectivement plusieurs là sur le quartier de Maurepas, notamment à l'école des Gantelles. Mais en fait, oui, c'est surtout à l'école des Gantelles. Et puis, il y en a un peu au Blône, enfin, dans différentes, même autour de Rennes, hein, à Verne, dans d'autres villages aussi autour de Rennes. Mais pour l'instant, on a très envie de travailler avec l'école. Mais pour l'instant, l'école a un peu peur de nous. Parce que, justement, on leur fait remarquer que des fois, les droits sont pas respectés et ils ont l'impression, et c'est, en général, ils font du mieux qu'ils peuvent. Donc, ils ont l'impression de faire bien leur travail. Et quand on vient leur dire, oui, mais là, il y a eu un peu de racisme. Oui, mais là, ça leur plaît pas. Donc, c'est un peu difficile. On travaille vraiment à essayer de travailler plus en partenariat avec les écoles. Mais par exemple, pour l'instant, on n'a pas le droit d'afficher par exemple, nos informations dans l'école. Donc, c'est vraiment du bouche à oreille entre habitants. Voilà. Mais notre objectif serait de travailler avec l'école et qu'on soit tous ensemble, bien entendu, pour le bien-être de nos enfants. Mais c'est un travail qu'on fait petit à petit.
Vous demandez les enfants contrôler la violence dans le quartier populaire. Êtes-vous, on est dehors de l'école, dans la maison du quartier?
C'est un peu comme une maison de quartier ici, le PAM. Donc, nos bureaux sont là, nos réunions, on les fait ici. Donc, effectivement, on est très souvent ici. Et oui, on ne défend pas les enfants que à l'école. Hein. Effectivement, ça peut être aussi face à des problèmes au centre social ou effectivement dans la rue, des violences policières. Hein. C'est arrivé que une personne du Front de Mer accompagne les familles qui voulaient porter plainte pour des violences policières qui se sont produites dans la rue. Donc, vraiment. On aide tout ce qui est sur l'espace public, l'école, la rue, les maisons de quartier, tout, oui. Ouais. Après, l'idée, c'est vraiment d'encourager ça dans chaque quartier. Notre café des parents, dont parlait Jessica tout à l'heure, qu'on a mis en place sur le quartier, on aimerait vraiment... Enfin, il y a plein de... Au Blône ou Villejean, des parents qui nous disent « Mais on aimerait bien faire ça aussi. » Et nous, on est tout à fait OK pour les accompagner, pour mettre ça en place, trouver un lieu. Mais l'idée, c'est vraiment de donner de la force à chacun pour réussir à le faire. Hein. Donc, il faut vraiment oser se lancer. Et nous, on est là pour accompagner, pour parler de notre expérience et donc aider les gens à se lancer. Mais on encourage dans chaque quartier parce que c'est plus facile, je pense, d'organiser les choses dans son quartier parce qu'il y a plein de gens qu'on connaît, etc., plutôt que d'aller dans un autre quartier. Mais vous êtes les bienvenus ici. Et en même temps, si on peut vous aider à développer des choses dans votre quartier, c'est avec plaisir, quoi.
Quelle est la problématique à Rennes?
Moi, j'ai entendu, je me permets, pareil, toujours. Je pense qu'on est loin de ça à Rennes, mais néanmoins, j'ai quand même entendu parler de ça sur France Inter, donc comme quoi, parfois, ils font bien leur travail. Un reportage où, alors, c'est pas des enfants, c'est des un peu plus âgés, qui, à Pontoise, notamment, la police municipale, donc, en cela motivée par la maire, vient mettre des amendes aux jeunes qui, mais ça peut être aussi des adolescents en mineurs, qui traîneraient. Alors ça va être, ils accumulent les amendes parce que ils ont craché par terre, parce qu'ils ont mis le contact de leur voiture sans monter dedans tout de suite. Enfin, et ils se retrouvent endettés. Ça peut être ce genre de problématique.
Oui, ça, c'est les amendes forfaitaires délictuelles, je crois, le terme précis de ces amendes-là. C'est quelque chose qui est assez récent, enfin, qui date de 2016, je crois. Effectivement, les agents assermentés comme ça peuvent mettre des amendes. Normalement, il n'y a que pour les infractions au code de la route qui peuvent mettre des amendes. Mais là, il y a eu cette loi qui a rajouté ça pour une incivilité ou quelque chose. Et en fait, effectivement, sur le quartier, on a eu des cas d'amendes forfaitaires, surtout pendant le Covid, en fait, pour, par exemple, parce que des jeunes ne portaient pas le masque ou des choses comme ça. Et en fait, une fois que les forces de l'ordre ont leur nom, leur adresse et tout ça, certains se voyaient recevoir des amendes pour des choses qu'ils n'avaient pas fait. En fait, ça, les amendes, effectivement, s'accumulent, mais ça peut aller à des montants jusqu'à des 70 000 euros. Ça met toute la famille, bien entendu, dans une situation infernale. Parfois, les enfants, les jeunes n'étaient même pas en France, par exemple, ou à Rennes, au moment où ils ont reçu une amende. Donc, c'était vraiment des choses. C'est un abus, quoi. Et ça, avec le défenseur des droits, on s'est vraiment allié pour parler de ça, défendre ça. La Ligue des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme est vraiment intervenue là-dessus. Et on a eu vraiment des cas, et je pense qu'il y en a encore, hein, des cas sur Maurepas, oui. Ben, je crois le fait de pas être représenté, de pas avoir la parole. Encore une fois, moi, je suis blanche et bobo. Hein. Je fais attention de là où je parle. Donc, moi, on m'écoute assez facilement. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ose plus prendre la parole, par exemple, que Jessica, qui est très bavarde et qui a plein de choses à dire. Mais c'est extrêmement difficile quand c'est pas notre langue, le français, quand on vient d'un autre pays et que donc on ne connaît pas bien les codes, on n'ose pas et tout. Et du coup, moi, je trouve que c'est ça qui est très compliqué, c'est de... que les personnes blanches laissent la place, en fait, et écoutent vraiment, prennent le temps d'écouter les gens des quartiers populaires qui ont plein de compétences, plein de choses à dire. Et en fait, on nous demande toujours, à nous les mamans, d'aller distribuer des flyers pour tel événement, de traduire. Et en réalité, moi, je leur dis à chaque fois, mais embaucher des gens issus des communautés que vous voulez toucher, plutôt que de nous demander à nous bénévolement d'aller tout le temps chercher. Ils nous disent, oui, mais en fait, on a du mal à toucher certaines communautés. Embaucher des gens issus de ces communautés pour qu'ils vous fassent confiance, en fait. Moi, je lutte pour que les personnes blanches écoutent les autres. Enfin, les personnes vraiment françaises, à l'aise. On a toujours l'impression que c'est aux autres, aux personnes qui arrivent de l'étranger, de s'intégrer, de faire l'effort, alors qu'en fait, nous, quand on parle de communautarisme, je sais pas si vous voyez ce que c'est le fait de se rassembler entre communautés. C'est tellement plus facile d'être avec des gens qui parlent la même langue que nous, qui ont la même culture et tout, c'est tout à fait normal. Eh ben, moi, je trouve que les Français font aussi du communautarisme dans notre quartier. Nous, clairement, dans l'immeuble dans lequel j'habite, il y a pratiquement que des Blancs et ils restent ensemble et ils veulent pas se mélanger toujours aux gens du quartier. Et ça, je trouve... Enfin, moi, mon combat, il est là aussi d'essayer de convaincre les personnes blanches que... Mais les autres ont aussi des qualités, des compétences et qu'on peut, faire appel à eux, aux mamans, pas que pour faire des gâteaux toujours, quoi. Pas que pour s'occuper des enfants, pas que. On a aussi des compétences qu'on peut mettre en avant, en valeur et sans jugement et sans que ça soit juste folklorique, voyez, aussi. Pareil pour le carnaval, on va se déguiser avec les costumes traditionnels. Ben non, c'est pas un déguisement le costume traditionnel, ça a une valeur, une symbolique, c'est important. On peut le mettre en valeur à certains moments, mais pas le carnaval. Le carnaval, c'est pour se déguiser, c'est pour jouer. Et vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut expliquer. Moi, je suis vraiment dans l'éducation des personnes blanches pour leur dire, voilà, faites attention à ce que vous faites. Voilà.
En fait, quand j'ai arrivé ici en France, pour moi, le handicap, c'était simplement le physique qu'on voit. Et si en arrivant ici, j'ai découvert que mon fils a un handicap invisible, justement. Il est autiste, donc personnellement, moi, je n'ai pas considéré ça comme un handicap avant, etc. Bon, en force de travailler avec lui, etc., on a quand même compris qu'il y a aussi un gros besoin avec les parents qui ne comprennent pas comment on fait la démarche des MDPH. C'est très, très compliqué. En plus, on ne sait pas parler le français. Et les documents là à remplir, c'est vraiment... vraiment très difficile et on ne sait pas toujours vers qui aller pour demander l'aide par rapport à ça. Même à l'école, les enseignantes aussi, ils ne peuvent pas nous aider vraiment dans cette démarche-là. Donc on se trouve toujours très souvent seul et à se débrouiller. Et je trouve que nous, en tant que parents d'étrangers, j'ai vu personnellement dans l'école de nos enfants qu'il y a pas mal de parents et ils sont bloqués par rapport à ça. Ils ne savent pas comment faire, etc. Et nous, en tant que front de mère, on veut aider plus possible avec nos expériences qu'on a eues personnellement. Et voilà. Et on a les ressources, on a les gens qui peuvent aider. En tant que bourgeois, etc. Parce que c'est le cas, hein, c'est mon cas. Hein, en tout cas, ma mère est là pour me soutenir. Si j'ai des questions, voilà, je sais que je peux aller toquer à leur porte pour demander un soutien, etc. Voilà.
Nouvelle pause musicale dans les ateliers radiophoniques sur Canal B, on va écouter Jeanne Haddad, Look at them.
All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry? When she says everything is fine over her head, clouds that look like mine, oh, why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, all the worries that you never said, rotten fireworks kept inside waiting for a light, all the roads that you never take, climb bridges we
we crossing our minds? Who are we fooling? When we cry, when she says everything is fine, overhead clouds that look like mine. Oh, why can't she wish for brighter skies?
Radio Curieuse.
Loukadzem Janeded sur Canal B.
Et comment vous agissez pour améliorer la situation?
Alors, on agit par exemple en devenant délégué de parents d'élèves dans nos écoles, en écoutant les personnes, en essayant d'orienter les personnes vers les bons organismes ou les bons interlocuteurs, en s'écoutant. En se faisant des câlins, en se donnant de la force, en passant des moments joyeux aussi, festifs ensemble. On fait souvent la fête. Par exemple, dimanche prochain, on va, plusieurs familles du quartier, là, de Front de Mer, on va faire une journée avec nos enfants à Dinan pour visiter le château de Dinan. Et donc voilà, on essaie régulièrement de se faire des moments où on n'est pas tout le temps en train de lutter et de se battre. Aussi des moments, on s'apporte aussi du plaisir entre nous. Et hein, les câlins, c'est important. On s'en fait souvent pour donner de la force.
Comme l'école pourrait améliorer la situation?
Le problème de l'école, c'est un problème vraiment systémique. C'est-à-dire, c'est tout le système de l'éducation nationale, de la France en général, qui a un rapport, à cause de notre histoire, la colonisation, tout ça, qui a un rapport de « moi, je suis l'homme blanc qui sait mieux que les autres ». Et du coup, même si chaque individu, enseignant, tout ça, n'a pas envie de faire ça, on est quand même baigné dans cette culture-là. Et en fait, c'est très difficile d'oser critiquer l'école ou en tout cas de faire valoir nos droits à l'école parce que ils ont l'impression, comme je le disais, de faire le mieux qu'ils peuvent, ce qui est sans doute vrai, et qu'ils ont l'impression de savoir, de tout savoir à l'école. C'est les enseignants, c'est ceux qui savent, qui ont fait des études et qui savent tout. Donc, c'est très difficile pour eux de se remettre en question et d'entendre que, oui, mais là, il y a un problème et on pourrait peut-être travailler ensemble pour le résoudre, en fait. Donc, c'est très difficile pour nous de travailler avec l'école, avec certaines écoles. Il y en a avec qui ça se passe bien, mais souvent, c'est un peu...
qu'on appelle la fragilité blanche.
La fragilité blanche.
Oui, dans ces cas-là, quand on dénonce, par exemple, une situation raciste auprès de personnes blanches qui travaillent, qui soient travailleurs sociaux ou enseignants, souvent, la réaction, c'est « mais non, mais on n'a pas voulu faire ça, donc non, il y a un malentendu, vous avez pas bien compris ». Vous voyez, et en fait, ils renversent souvent la culpabilité. C'est de votre faute parce que vous avez pas compris ou parce que... Non, mais c'est jamais de leur faute à eux. Vous voyez? Et ça, c'est très dur. Moi, c'est quelque chose que je trouve qui est vraiment dur. C'est de pas accepter simplement la critique et de toujours, c'est toujours l'autre qui a pas compris. C'est toujours, donc, du coup, de la faute encore de la personne qui vient dénoncer quelque chose de raciste ou quoi. Vous voyez? Et ça, c'est, je trouve ça hyper injuste. Moi, ça me...
Ouais, la fragilité blanche. Il y a une autrice américaine, afro-américaine, qui est noire, qui s'appelle Britt Bennett et qui a écrit un livre il y a plusieurs années où, c'est en américain, mais c'est « Je ne sais pas quoi faire de ces alliées blanches ». Et elle dit il y a des blancs qui pensent ne pas être racistes, qui nous défendent, etc. Et en fait, ils sont maladroits, même parfois un peu pénibles. Et c'est hyper intéressant ce qu'elle explique. Elle dit « Moi, je ne sais pas quoi faire de ces alliés blancs qui pensent... Déjà, ils vivent pas la situation, donc c'est parfois compliqué, mais c'est intéressant.
Quel lien vous faites entre défense de l'écologie et lutte antiraciste dans les quartiers populaires et pourquoi?
Alors c'est aussi une idée que défend Fatima Wasak dans son livre L'écologie pirate, c'est que quand on a quitté son pays, on a quitté sa terre aussi. Et on se retrouve souvent dans un quartier populaire, très bétonné, on n'a plus de terre. On nous fait bien comprendre que ce n'est pas notre terre et en plus, voilà, il y a très peu d'espace vert. Donc vraiment, l'idée c'est de retrouver ce contact avec la terre qui est très important. Nous, voilà, comme je vous disais, on fait des visites de jardins. Il y a beaucoup, beaucoup de jardins communautaires et tout dans le quartier. Donc, on va les découvrir. On va essayer de travailler avec eux, notamment avec la Loupiote. Il y a une association qui a deux jardins et donc qui est, trois jardins même. Tu vois, tu connais mieux que moi. voilà, enfin, on fait ça. On a participé samedi dernier à Place au Miam, un street food festival, quoi, un peu sur le quartier. On a fait un stand et on voulait de nourriture. Bah, Jessica a fait le dessert. Notre ami Rama a fait le plat. Et l'idée, c'était de montrer que la cuisine, par exemple, d'autres pays, souvent, enfin, dans l'idée aussi des Français, c'est que souvent, ah non, mais les autres, ils mangent gras, ils mangent comme ça, c'est pas toujours bon, les autres cuisines. Enfin, nous, les Français, on fait la meilleure cuisine du monde, bien entendu. Donc, voilà. Et en fait, là, c'était une façon de montrer que, bah, si, on peut cuisiner de façon saine, équilibrée, avec des produits bio, etc. Et donc, en plus, on est très fiers parce qu'on a gagné le premier prix.
Bravo. Ah, ouais. Pour le dessert, l'ensemble.
L'ensemble, ouais. Donc, on va faire le marché à manger en septembre. C'est un gros événement. Mais on agit, par exemple, on cherche aussi... on aimerait trouver un producteur bio, parce que c'est très difficile de trouver à la fois des produits, de la viande, par exemple, bio et halal. Enfin, on en... trouve pas. Nous, en tout cas, on n'en connaît pas dans la région. Donc, on aimerait, par exemple, demander à un éleveur bio de nous réserver une partie de ses animaux pour faire l'abattage halal, par exemple, et qu'on puisse avoir du bio et halal, et qu'on n'ait pas à choisir entre la qualité et la religion, en fait, qu'on puisse avoir les deux, par exemple. Voilà. C'est des actions comme ça, très précises et très concrètes qu'on défend.
En ce moment, justement, sur le café le mercredi, on avait fait une carte alimentaire pour savoir, voilà, on trouve les produits bio. C'est pas simple. Et en plus de ça, c'est très cher. Et moi, qui ai une famille nombreuse, veux bien faire pour faire manger les enfants sains, bio, locaux. C'est pas très simple. On va toujours pour le prix un peu moins cher et c'est pas toujours le plus bon pour la santé, pour les enfants, etc. On va toujours prendre ça en tant que famille nombreuse. On a toujours un petit budget quand les parents sont un qui travaille, etc. C'est vraiment très compliqué. Donc, on est en train de travailler dessus pour savoir les produits locaux, bio, et voilà, pour aussi de la viande, des légumes, des fruits, etc. Parce que on fait attention à ce qu'on mange quand même tous les jours. Voilà, moi, en tout cas, je fais très attention à ce que je donne aux mes enfants, etc. Des choses industrielles. Voilà, c'est quand on voit des ingrédients qu'ils mettent par-dessus, on voit énormément de choses qu'on ne comprend rien du tout. N'est pas parce que je ne connais pas le français, c'est parce que les ingrédients, c'est vraiment... regardons, par exemple, des gâteaux industriels, on a les enfants, ils mangent leur goûter, etc. Donc moi, je me force à faire ça moi-même, etc. Par exemple, avec la carte alimentaire, on avait quand même... on va faire avec l'association de la Loupiote. Hein, j'ai dit association correctement pour une fois. Il bug tellement avec ce mot.
Et moi-même, c'est compliqué.
C'est pour ça que j'ai dit asso. Hein.
Asso, ouais, mais bon, mais là, je voulais être un peu plus. On travaille dessus. On se met de la main dans la terre, justement, pour bien. On envisageait bientôt aussi entre nous de faire des ateliers de jardinage Oui, parce qu'on trouve qu'on peut faire une petite potager sur le balcon. Les enfants qui va reculter, qui va le planter, va voir le fait grandir, etc. Ce genre de choses qui nous tient à cœur pour que les enfants puissent voir ça vient d'où exactement. Et voilà, si c'est eux qui ont cultivé ça, c'est une grande fierté. Et pour moi, en tout cas, quelqu'un qui n'a pas le main verte, j'ai des copines qui me donnent un peu de coup de main pour me dire voilà quoi faire, etc. Et on est en train de s'allonger dedans, voilà. Donc on va bientôt faire notre propre potager sur le balcon de la maison, même si c'est tout petit, mais on va le faire et on verra ce que ça donne après.
Depuis l'existence de Front de Mer dans le quartier, vous voyez quel changement?
Alors moi, je vois des changements dans le sens où, par exemple, Jessica est à côté de moi et a quand même bien pris la parole. Donc ça, par exemple, je suis fière. Je ne sais pas si vous voyez avec les yeux avec les cœurs quand je la regarde parler. J'adore. Tu rigoles, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis hyper fière des copines qui osent faire de plus en plus de choses par elles-mêmes, qui osent, par exemple, quand une personne leur dit « Est-ce que tu pourrais m'aider à venir faire à manger ?» et tout, elles disent « Ok, mais si je suis payée, hein, sinon je ne le fais pas bénévolement. » Ce genre de choses, ça y est, je trouve qu'on commence à prendre confiance en soi et tout. Là, j'aime beaucoup. Et puis, dans il y a plein de choses dans les rapports avec l'école. J'ai beaucoup dit que nos rapports étaient difficiles, mais en fait, ça s'améliore. On voit bien quand même que les choses avancent. Avec la ville de Rennes, notamment aussi, ils sont vraiment à l'écoute et soutenants pour nous. Quand on dit quelque chose, bon, bah voilà, au début, c'est un peu difficile à entendre. Puis après, on voit bien que les choses avancent, qu'il y a des formations qui sont mises en place. Enfin, en tout cas, une volonté de formation antiraciste ou quoi. Et ça, vraiment, c'est important pour nous. On sent qu'on atteint nos objectifs, en fait, qu'on est entendu. Et je trouve ça hyper important. Donc, à la fois, on ose prendre la parole plus et à la fois, on est entendu en face. Donc, c'est bien, quoi.
Quels sont vos espoirs pour la prochaine génération?
Eh ben moi, j'espère que nos enfants, en nous voyant militer, faire toutes les choses qu'on fait, eh ben j'espère qu'ils vont prendre exemple sur nous et qu'ils vont avoir eux aussi à leur tour le courage de se lancer peut-être, par exemple, en politique, hein, pourquoi pas, parce qu'il y a besoin de représentants politiques des quartiers populaires. En ce qui concerne mes enfants, blancs, encore une fois, qui ont des prénoms très bretons en plus, nom de famille très breton. Ben, j'espère que, voilà, en leur montrant tout ça, ben, eux ne reproduiront pas cette domination, enfin, le moins possible en tout cas, et qu'ils seront plus ouverts. Enfin, vraiment, pour moi, le combat antiraciste, ça se joue à plein de niveaux, et c'est ensemble, en faisant le plus possible de choses ensemble, qu'on arrivera, à mon avis, à vivre ensemble encore mieux pour les prochaines générations, quoi.
En fait, personnellement, moi, j'ai une ado de 14 ans bientôt, et elle est déjà sous le trace de faire du bénévolat, etc. Et elle me dit très souvent, elle est très fière de sa maman, et c'est ce que je veux, qu'ils soient fiers de leur maman. Et aussi, ma fille, le thème raciste, elle le connaît très bien maintenant. Bah, au collège, ça arrive à tout le monde. Et bah, ils sont quand même dans un quartier populaire. Et dans le collège, et là, il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai, elle m'avait déjà raconté plein de fois. C'est pas forcément pour elle, mais ça arrive aussi qu'elle avait subi des racismes, malheureusement, elle-même, dans le métro, quoi. C'est dans l'endroit public que quelqu'un l'a traité de singe. Mais elle a pas réagi. Et c'est ça, le problème. Les gens, ils ne réagissent pas quand ils voient ce genre de choses. Et après, on ne sait pas comment réagir pour ne pas faire du conflit, par exemple, pour ne pas... C'est parce que si, par exemple, c'est une blanche âgée, moi, mes enfants, ils respectent tout le monde. Et on a beaucoup plus de respect pour les gens âgés. Parce que, voilà, ça peut être ta mamie, ton papy, etc. Voilà, mes enfants, ils respectent adultes comme d'enfants. Et elle a pas osé parce que c'était une personne âgée, et elle a pas osé parce qu'elle a dit ça va dire que elle respecte pas les âgés, mais elle a pas défendu. Même ses amis, ils sont pareils, ils disent rien. Et c'est ça le problème, justement. Des générations qui arrivent, oser parler, dire quelque chose, en fait.
Quel changement souhaitez-vous voir dans la société française?
Eh ben, moi, ce que j'aimerais, c'est que, au niveau national, en fait, on reconnaisse, déjà, là, cette année, c'est les 20 ans, je dis pas de bêtises, de la, ou 25 ans. 25 ans de la loi Taubira, qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais il reste encore du boulot à la France, je pense, pour vraiment reconnaître tout ce que... Là, c'est vraiment au niveau d'un système... Vraiment, ça dépend pas des individus, ça dépend vraiment de l'État, de reconnaître que, effectivement, l'esclavage a été le pire crime contre l'humanité, et que on est encore dans ce système-là. Moi, j'ai entendu un discours de Macron, je sais plus, là, je crois qu'il était au Mali, où il disait que, quand même, ils étaient pas très respectueux, qu'ils étaient pas assez reconnaissants de tout ce qu'on avait fait pour eux, alors qu'en fait, si on avait construit des routes, c'était pour mieux ramener ce qu'on pillait, les matières premières et tout, qu'on pillait dans ces pays et qu'on voulait les ramener plus facilement jusque chez nous. C'était pas pour... si on construisait des hôpitaux et des écoles dans les colonies, c'était pour soigner les Blancs qui étaient là-bas. C'était pas... moi, ça me choque qu'on ait encore... Que l'État ait encore cette vision coloniale de notre place dans le monde, quoi. En fait, on est encore au centre du monde, et ça, voilà, j'aimerais que l'État reconnaisse un petit peu l'égalité réelle des gens, en fait, de tous les gens, et qu'on accueille au maximum les gens en France, et que ça fasse vraiment partie d'un devoir d'État, en fait, d'accueillir les gens, et que ça soit plus des responsabilités individuelles, mais que ça soit l'État qui reconnaisse tout ça, voilà.
Et si on veut vous rejoindre, on fait comment?
Comme j'avais dit, on a le café le mercredi au centre Le Long Pré. Tout le mercredi matin, on se trouve à partir de 9h après déposer les enfants, mais jusqu'à 11h30 on est là. Donc ça, c'est une façon de nous rencontrer en face, et après on contacte par téléphone. Mail, sur le site aussi.
Le premier épisode de l'émission des stagiaires de langue et communication sur les droits des femmes est terminé. Rendez-vous samedi prochain, le 11 juillet, pour écouter le second épisode. Natalia Zoya, El Sadig et Marie-Lou nous raconteront à leur tour leur rapport à l'égalité des sexes, et on pourra entendre l'interview de Maya Kerbelec de l'ASFAD.
Les ateliers radiophoniques des Canal B.